Frédéric Gaudreau. Vous aimez la littérature et le monde du livre? Chaque semaine, l'équipe d'Épilogue vous attend avec des entrevues, critiques et actualités sur la scène littéraire d'ici et d'ailleurs. Épilogue, dimanche midi, rediffusion mercredi 10h sur les ondes de CKIA FM.
Bonjour, ici Juliane Perrault. Voici votre bulletin du vendredi 21 novembre 2025. Une plainte a été déposée cette semaine au tribunal administratif du travail par le syndicat des travailleuses et travailleurs de librairie Renaud-Bray CSN en lien avec la fermeture de la succursale Renaud-Bray située aux Galeries de la Capitale. Dans sa plainte, le syndicat allègue que cette fermeture contrevient au Code du travail puisqu'il s'agit d'une entrave dans ses activités et d'une représailles contre ses membres qui ont voté en faveur de la grève et contre les offres patronales. Pour Caroline Senneville, présidente de la CSN, personne n'est dupe. Renaud-Bray tente de se débarrasser d'un syndicat qui lui tient tête tout en intimidant l'ensemble de ses employés. Dans le cadre de l'entente de développement culturel intervenue entre la Ville de Québec et le gouvernement du Québec, des subventions totalisant un peu plus de 166 000 $ seront versées à 12 organismes de loisirs pour des projets de médiation culturelle. L'annonce a été faite par le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, et la responsable de la culture au comité exécutif de la Ville de Québec, Marianne White. Pour Mme White, les activités que la Ville a choisi de soutenir reflètent le dynamisme de notre milieu artistique, tout en encourageant la création de liens plus forts dans la communauté. Pour sa part, le ministre Lacombe s'est réjoui de la mise en place de ces initiatives qui permettront tant aux artistes qu'aux citoyennes et citoyens de réaliser des projets uniques portant leur empreinte. La 27e édition du marché de Noël de la coopérative des horticulteurs de Québec débute demain et se poursuivra jusqu'au 24 décembre. L'événement rassemble cette année plus de 250 entreprises des domaines agroalimentaires et de l'artisanat. Demain, des performances musicales d'artistes locaux contribueront à réchauffer l'ambiance aux quatre coins du marché. Tout au long de la fin de semaine, le Père Noël sera sur place pour recueillir les souhaits des tout-petits. D'autres activités spéciales sont prévues d'ici le 24 décembre. La Ville de Québec et le réseau de transport de la capitale invitent les propriétaires de véhicules de promenade à profiter d'une dernière remise de billets gratuits pour découvrir les services de transport collectif. L'événement aura lieu le vendredi 28 novembre et le samedi 29 novembre 2025 au Centre des foires d'Exposité, sur réservation seulement en remplissant le formulaire sur le site web de la Ville pour choisir une plage horaire et réserver des billets. C'est ce qui complète cette édition. Au nom de toute l'équipe, bonne journée à l'antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.
Toute simplicité. plupart des luxes et nombre des soi-disant conforts de la vie sont non seulement non indispensables, mais agissent, qui plus est, comme des obstacles à l'élévation de l'humanité. En ce qui concerne le luxe et le confort, les humains les plus sages ont toujours vécu une vie plus simple et plus humble que les pauvres. Les philosophes antiques, qu'ils fussent chinois, hindous, perses ou grecs, formaient une classe d'hommes sans aucun égal en pauvreté extérieure et richesse intérieure. Nous en savons peu à leur sujet. Il est cependant remarquable que nous en sachions autant que nous en savons. La même chose est vraie au sujet des réformateurs et bienfaiteurs de l'humanité les plus modernes. Nul ne peut être un observateur avisé et impartial de la vie humaine s'il la considère depuis un point d'observation autre que ce que nous devons bien appeler la pauvreté volontaire. Le fruit d'une vie dans le luxe est le luxe, que ce soit en agriculture, dans le commerce, en littérature ou dans les arts. Il existe aujourd'hui des professeurs de philosophie, mais aucun philosophe. S'il demeure cependant admirable d'enseigner la philosophie, c'est parce qu'il fut jadis admirable de vivre selon ses principes.
Je vais écrire, vivre profondément. Je m'en vais, vivre dans le bois. Je m'en vais, vivre dans le bois.
Alors, bienvenue en toute simplicité. Aujourd'hui, on va avoir une émission consacrée à notre ancien collaborateur maintenant, qu'on peut dire ancien, Jacques Sénécal, qui est parti samedi dernier. On le savait malade depuis quelques années. Il a demandé l'aide médicale à mourir samedi dernier. C'est surprenant, Jacques a continué à faire des chroniques avec nous jusqu'au mois de septembre dernier. Puis il était assez malade depuis au moins 2 ans. Et il a fait la saison complète l'an dernier, la saison complète l'année d'avant. Alors, on était chanceux de l'avoir. Puis c'est un personnage, Jacques, qui a tout un vécu. Alors, dans l'émission d'aujourd'hui, on ne pourra pas faire le tour de sa vie, mais on va revenir un peu sur ses chroniques, ses choses qu'il a produites en tant que philosophe, mais etc. Toutes sortes. On va parler un peu de sa vie en général aussi. Alors, avant de parler, de passer à notre thème d'aujourd'hui, quelques annonces. Aujourd'hui, hier, c'était la Journée mondiale de la philosophie. C'est l'UNESCO qui s'occupe de la Journée mondiale de la philosophie. Puis si vous allez sur le site de l'UNESCO, vous écrivez Journée mondiale de la philosophie, il y a des activités qui ont commencé hier puis se poursuivent encore aujourd'hui toute la journée. Des conférences, entre autres, on parle d'une conférence du philosophe Hartmut Rosa qu'on a déjà parlé d'Hartmut Rosa plusieurs fois en toute simplicité. Alors, c'est ça, c'est la journée, comme je disais, la Journée mondiale de la philosophie. Ensuite de ça, dans les activités, on a un café philo ce soir à la librairie de la Liberté, pour ceux que ça intéresse. C'est à 19h. Et il y a un lien aussi avec les cafés philo, je vais revenir là-dessus tantôt, parce que Jacques Sénécal, c'est lui qui m'a initié au café philo, qui m'a montré comment faire. Il est venu à Québec pendant des années, 2-3 fois par année pour animer des cafés philo. Puis comment c'est ça? Puis Jacques lui-même a débuté les cafés philo au Québec. C'est un peu lui qui a amené ça au Québec. Puis aujourd'hui, il y a des cafés philo un peu partout. Et puis c'est grâce à Jacques Sénécal, un de ses héritages. Alors, on va en reparler aussi de ça tantôt. Ensuite, aussi, pour ceux qui s'intéressent, au mois de février prochain, il va y avoir une conférence de Frédéric Lenoir sur les 5 piliers de la sagesse. Ça va être intéressant. C'est une conférence sur la philosophie. J'ai été voir sa conférence de l'année dernière, au printemps dernier, sur Marc Aurèle. C'était vraiment, vraiment, vraiment bien, vraiment intéressant. Donc, c'est au Palais Montcalm au mois de février. Vous pouvez acheter vos billets à l'avance. Ensuite, évidemment, nous sommes encore dans la COP qui se termine aujourd'hui. On pourra faire le bilan de la COP vendredi prochain. J'ai retenu quelques articles du Devoir sur le sujet. Il y avait dans le Devoir de lundi, Catherine McKenna dénonce le lobbying intensif de l'industrie des énergies fossiles. Les entreprises veulent faire un maximum de profit en payant le moins possible pour nettoyer leur pollution, affirme l'ancienne ministre fédérale de l'Environnement. L'ancienne ministre de l'Environnement, Catherine McKenna, dénonce les multiples stratégies d'éco-blanchiment et de lobbying intensif de l'industrie des énergies fossiles pour qu'elles évitent de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. En entrevue au Devoir, elle affirme d'ailleurs que les projets de capture et de stockage de carbone des pétrolières servent d'abord à retarder l'action climatique. Elle dit, ils font de l'éco-blanchiment, dénonce Mme McKenna. Ils augmentent leurs émissions, ils n'investissent pas dans l'énergie propre, ils combattent toutes les réglementations et font du lobby contre l'action climatique. Ils demandent des subventions au gouvernement. Ce sont tous des exemples d'éco-blanchiment. Alors, à la COP aussi, il y a beaucoup d'entreprises qui font du lobbying là-bas. Alors, c'est pour ça qu'on a des résultats mitigés bien souvent. Par contre, la crise climatique, elle est réelle. Là, il y a un autre texte dans le Devoir de lundi. En Inde, mourir de chaud, un phénomène sous-estimé. Les autorités locales n'ont pas encore saisi l'ampleur des décès liés à la chaleur et encore moins la façon d'y répondre efficacement, affirment des experts en santé publique et des scientifiques. L'Inde se réchauffe et rapidement. La situation actuelle, déjà sombre, annonce un avenir encore plus inquiétant pour le pays le plus peuplé du monde, qui connaît des vagues de chaleur plus fréquentes et plus sévères. Mais l'Inde, avec ses 1,4 milliard d'habitants, dont beaucoup vivent dans la pauvreté et sont particulièrement vulnérables au changement climatique, ne saisit pas encore l'ampleur du problème et pourrait être mal équipé pour y faire face, affirment des experts en santé publique et scientifiques. Puis on dit qu'il y a des liés au changement climatique. On dit ils ont des travaux qui ont été faits par des chercheurs de l'Université de Californie qui ont déterminé que 5 vagues de chaleur par an, chacune durant 5 jours, peuvent entraîner au moins 150 000 décès excédentaires chaque été à travers l'Inde. Alors, il y a des pays comme ça qui, eux, les subissent vraiment, les changements climatiques. Nous, au Québec, on le sent moins, mais dans certains pays, au niveau des tropiques, c'est beaucoup moins. C'est très, disons, les changements climatiques sont beaucoup plus présents. On a un petit bilan aussi de la COP dans le Devoir du jeudi, où en est la COP 30 juste avant le sprint final, la conférence onusienne sur le climat à Belém au Brésil, dans sa phase finale. Quels enjeux se distinguent? Quelle face montre le Canada au monde? Nous en avons discuté avec l'expert en diplomatie climatique, Aidé Pérez, conseiller du ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault. Alors, on dit 10 ans après l'accord de Paris, le président brésilien de la conférence, André Arana Correa do Lago, ne peut négliger de faire le bilan des efforts mondiaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre en regard des cibles de 1,5 et 2 degrés. Mais surtout, il doit redonner un élan à la COP, selon M. Pérez. Je m'attends à ce que les négociations essaient de montrer que le multilatéralisme fonctionne malgré les tensions géopolitiques actuelles, dit-il, en rappelant que l'absence des États-Unis est l'éléphant dans la pièce à Belém. Pour y arriver, la présidence brésilienne évite de créer une dynamique de groupe qui opposerait deux camps intransigeants. Elle use de discipline et de créativité, explique M. Pérez. C'est-à-dire qu'elle évite de froisser un pays comme l'Arabie saoudite et ouvre grandes les portes à la conférence, à la société civile, comme aux groupes autochtones. J'ai un autre texte ici dans le Devoir de mardi. Jean Nollet, qu'on devrait... à chaque année, on l'a, Jean, comme invité, qui est de l'auteur, il est économiste et directeur des changements climatiques et du marché du carbone à la Fondation Environnement et Développement durable. Et il nous donne un petit bilan là, de la COP, puriste, opportuniste, réaliste, uni pour le climat. Depuis Belém, dans la zone verte ouverte à la société civile, il est possible de faire le constat que le mouvement pour la lutte contre les changements climatiques est affaibli par des querelles fratricides internes, une lutte entre groupes partageant un objectif commun, mais étant divisé sur la question des stratégies adoptées pour atteindre les cibles déterminées. Alors, c'est ça, c'est complexe, il y a des groupes, ceux qui veulent faire avancer la lutte au changement climatique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre ont des stratégies différentes, il y a des approches différentes, il y a une chicane interne, en plus des lobbies, donc c'est pas simple la COP. Alors, c'est sûr, comme je vous dis, Jean, je vais le contacter là, quand il va revenir de Belém au Brésil pour lui demander s'il ne voudrait pas venir nous parler un peu, nous faire un bilan de la COP. Puis, dernier texte, c'est un clin d'œil, c'est que Paul McCartney était à Québec, était à Montréal, c'est-à-dire, était au Québec cette semaine. Et c'était un clin d'œil parce que Paul McCartney, il a exactement le même âge que notre ami Jacques Sénécal qui vient de nous quitter. Et c'est une légende. Puis, ben, il y a un parallèle à faire avec Jacques Sénécal et Paul McCartney dans le sens que sont tous les deux issus des 30 glorieuses des années 50, 60, 70. Alors, c'est ça. Je vais faire un petit clin d'œil de ce côté-là tantôt dans l'émission. Alors, voilà. Allons prendre une petite pause musicale, puis au retour, je vous parle un peu de Jacques Sénécal.
Tout ce que j'entends, c'est une voix qui dit respecte la vie de la nuit des temps. Tout ce que j'entends, c'est une voix qui dit respecte la vie. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Hi, 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 hi. De la nuit des temps, tout ce que j'entends, c'est une voix qui dit respecte la vie. De la nuit des temps, tout ce que j'entends, y a plus d'une voix qui dit respecte la vie. Respecte la vie. Respecte la vie. Hi, hi, hi.
Alors, c'était Jean Marc Aurel, Respecte la vie. Jean Marc Aurel fait souvent jouer des pièces de ses albums. Jean Marc Aurel est un grand ami de Jacques Sénécal. Et même à la dernière émission que Jacques a faite au mois de septembre, durant l'émission, il a même demandé si j'allais faire jouer une pièce de Jacques, de Jean Marc Aurel. Alors, c'est pour ça que Jean Marc Aurel, c'est un de nos réguliers en toute simplicité. Ça fait que, là, on va revenir à Jacques Sénécal, là. Je ne pourrais pas faire toute la biographie. Jacques a produit un petit livre, conte d'auteur, que j'ai eu, qui était vraiment distribution limitée, justement, que Jean Marc Aurel me fait parvenir. Puis, c'est assez impressionnant de voir tout ce que Jacques Sénécal a fait dans sa vie. Il est né en 1941. Et il a fait des études en pédagogie à Montréal en philosophie. Puis, il a fait un doctorat en philosophie, 70 à 72. Il a enseigné la philosophie, l'écologie au Collège de Rimouski et Rosemont. Là aussi, le lien avec en toute simplicité, parce que c'est justement, Jacques, un précurseur dans l'enseignement de l'écologie et philosophie. Puis c'est justement notre émission, c'est la philosophie et l'écologie. Donc, pour ça que Jacques était un collaborateur précieux, entre autres. Il a enseigné au lycée international de Hong Kong. Il a été scénariste à Radio-Canada, philosophe invité à l'émission Lisa de Radio-Canada, aussi l'auteur de chroniques philosophiques sur Internet. Il a été organisateur de cafés philosophiques pour le grand public à Montréal et à Trois-Rivières, formateur et animateur d'ateliers de philosophie pour les retraités depuis 1994 au Collège de Rosemont et de Maisonneuve et à l'Université des Troisième Âge, l'Université de Sherbrooke. Il a fait beaucoup de choses. Il avait rencontré Marc Sautet. Marc Sautet, c'est celui qui, dans les années 70, a développé les cafés philosophiques à Paris, en France. C'est là que les cafés philosophiques ont commencé, avec Marc Sautet. Jacques a assisté à des cafés philo de Marc Sautet, il l'a rencontré. Puis c'est de là qu'il a pris l'idée là, qui a développé les cafés philo au Québec. Il a aussi publié plusieurs livres. Entre autres, dans mes préférés, malheureusement, celui-là, il n'est plus disponible. C'est « Le bonheur philosophe ». Et c'est vraiment proche de la simplicité volontaire. C'est un livre, on pourrait dire, sur la simplicité volontaire. Et il nous présente une trentaine de philosophes. Et sur le lien avec la philosophie et le bonheur, comment bien vivre. C'est un livre que j'aime beaucoup. Il a aussi publié dernièrement Une étoile filante entre deux néants et autres destinations philosophiques. Ce sont des essais. Il y a une quarantaine d'essais qui sont publiés là-dedans. Mais Jacques m'avait parlé déjà qu'il travaillait sur ces essais-là. Et en fait, il y en avait une centaine, mais il y en a seulement 40 qui ont été publiés. Mais je vais vous lire un extrait d'un de ces essais-là qui n'a pas été publié dans son livre. Donc, c'est vous ne pourrez pas le trouver. Là. C'est Jacques qui me l'avait envoyé par courriel il y a quelques années. Il y a deux ans. Alors, puis c'est vraiment... Le titre de l'essai, c'est lié directement avec la thématique de l'émission. La philosophie peut-elle être un mode de vie? La philosophie, signifiant littéralement « amour de la sagesse », est une démarche qui vise à une compréhension du monde et de la vie par une réflexion rationnelle et critique, donc une réflexion théorique non scientifique, dont l'outil privilégié est la raison et qui a pour objectif le bonheur ou plus précisément la sagesse. Mais la philosophie est aussi un mode de vie, une démarche pour retrouver une cohérence entre soi et soi-même, entre soi et les autres, entre soi et le bien commun, l'humanité, et enfin entre soi-même et la nature à laquelle nous appartenons. Ce mode de vie suppose un comportement conforme aux exigences d'un idéal de sagesse. Il peut contenir des disciplines spirituelles comme la méditation et l'examen de conscience. C'est un chemin de vie, une pratique de tous les jours, penser sa vie et vivre sa pensée. La philosophie antique, notamment chez les cyniques, les stoïciens et les épicuriens, tous influencés par Socrate, n'a pas pour but de tout expliquer ni de tout analyser, mais de mener à une transformation de soi par des conduites particulières. C'est un choix de vie. La vie est plus importante que n'importe quel discours et n'importe quelle argumentation. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Il y a beaucoup de professeurs de philosophie, mais peu de philosophes, répondrait Henri-David Thoreau. D'ailleurs, c'est l'extrait que je vous ai lu en début d'émission, j'avais fait exprès. Quelle est alors la figure du sage dont le mode de vie serait à suivre? Une personne qui s'adonne à la quiétude, qui se libère des égoïsmes pour accéder à plus d'autonomie, d'universalité et qui, avec impassibilité, prend conscience d'appartenir à un tout. À la nature prise dans son ensemble, une personne qui a donc l'esprit holistique et qui, tout en focalisant sur le présent, se détache de la frénésie du monde de la consommation, des dépendances matérielles et des mensonges pour avoir en tout temps une vision juste de soi et du réel. Pour arriver à cette pratique volontaire, personnelle, destinée à une transformation de soi, cela suppose, selon les sages du monde entier, une pleine conscience de la raison, un éveil de la conscience de soi, un contrôle de la pensée par la méditation, le recueillement et la concentration. À noter que le mot « yoga » signifie « joug », contrainte, discipline. on n'a rien sans effort. Certains maîtres suggèrent l'assistance d'un guide spirituel ou d'un groupe d'initiés. D'autres, au contraire, proposent que l'on devienne seul son propre maître. Mais dans tous les cas, la connaissance des sages et de la sagesse par la lecture est recommandée. La figure du sage pour nous, occidentaux, est très certainement le grand Socrate, inclassable, déroutant, extravagant, atypique, philosophe n'ayant pas de philosophie. Il coordonne sa vie sur trois maximes qui ne sont pas théoriques, mais pratiques. Un mode de vie, premièrement, il vaut mieux subir l'injustice que de la commettre. Ensuite, nul ne fait le mal par choix conscient ou volontairement, puisque ceux qui désirent et font le mal, le font parce qu'ils ignorent ce qu'il est. Nous choisissons toujours les actions que nous croyons les plus utiles. Donc, le mal vient nécessairement d'une forme d'ignorance, d'une insouciance de soi et des autres. Et enfin, le fameux « connais-toi toi-même ». L'ignorance de soi est la plus insondable, car elle est la moins avouable. Dans sa manière de dialoguer, Socrate sait qu'il ne sait rien, docte ignorance, commence toujours par faire reconnaître à son interlocuteur qu'il doit être conscient de sa propre ignorance. Ce n'est qu'à partir de cette prise de conscience que l'on peut apprendre et travailler sur soi-même. La première étape est donc de mettre au jour une insouciance morale difficile à admettre. C'est l'ironie socratique. Si l'interlocuteur consent à chercher lui-même la réponse, Socrate passe à la seconde étape, la dialectique ou le dialogue ou le débat vers la connaissance, vers la définition précise de la réalité, vers la vérité. C'est la maïeutique, l'art d'accoucher des idées justes. Socrate, comme ses disciples proches lointains, est un exemple de la philosophie comme mode de vie. J'en résume les points forts. D'abord, un choix de vivre d'une certaine manière, c'est-à-dire avoir une existence morale associée à la vie heureuse. Ensuite, une discipline de vie et de pensée pour devenir meilleur, ce qui suppose des examens de la conscience, la définition juste des mots, l'écoute, le carnet de notes chez les stoïciens romains, notamment Marc Aurèle. L'immersion dans le tout et avoir un regard d'en haut, c'est-à-dire une perspective rationnelle et universelle. Finalement, avoir un discours qui justifie son choix de vie. La parole a une fonction éthique, puisqu'avec les amis, le dialogue en est un d'adaptation et de connivence, les amis étant complices de la manière de vivre ou d'un idéal semblable. Oui, la philosophie est un mode de vie. L'éveil de la conscience de soi, le contrôle de la pensée par la méditation, le recueillement, la concentration et la vigilance exigent une salutaire solitude et l'évitement inconditionnel des distractions incessantes des médias, des réseaux sociaux, des jeux vidéo et des divertissements futiles. Est-ce que le portable nous éloignerait de la sagesse? Alors, c'était son petit essai. Est-ce que la philosophie peut-elle être une mode de vie? Alors, on prend une petite pause musicale, puis au retour, je poursuis encore avec des extraits de Jacques Sénécal. Alors, nous voilà de retour pour parler de Jacques Sénécal. Jacques, comme je vous disais, il est issu des Trente Glorieuses. Alors, c'est une période assez spéciale, là, que, cette période-là, que je dirais des années 60-70, où les possibilités étaient énormes et Jacques en a beaucoup profité. À ce moment-là, c'était le début de la Révolution tranquille au Québec. Puis les opportunités étaient nombreuses. Il y a eu la création de l'Université du Québec. Alors, lui, il a eu accès dans les premiers à l'éducation pour tous. Aussi, c'était à cette époque-là assez facile de trouver des emplois parce que le Québec se développait. Alors, il en a profité. Il y a eu plusieurs postes d'enseignement un peu partout au Québec. Et ça lui permettait d'avoir un revenu intéressant. Et avec ça aussi, ben là, c'est ça, je résume parce qu'il y a beaucoup de choses dans son petit bilan que j'ai commencé à parcourir, là, mes années glorieuses autobiographiques, qui malheureusement n'est pas disponible, mais ça me permet de vous parler un peu de lui. C'est que aussi à cette époque-là, il y avait ce qu'on appelle le retour à la terre, puis on pouvait acheter des fermes pour une bouchée de pain. Là. C'était facile d'acheter des maisons dans des rangs, des fermes dans des rangs pour presque rien. Alors, il a vécu cette époque-là, il s'est acheté une ferme, il a vécu le retour à la terre, on peut dire, tout en enseignant, tout en écrivant des textes pour la radio. Il a même écrit des pièces de théâtre. En tout cas, c'est comme un tourbillon, là, toutes les choses que Jacques a fait. Et comme je vous disais, il a écrit des livres. Un de ceux que j'aime beaucoup, c'est « Philosophie occidentale et sagesse orientale, une approche amoureuse ». Et ce qu'il nous explique là-dedans, puis ça, en tout cas, je trouve que c'est un des livres qui l'explique le mieux, c'est qu'il y a une différence entre, on peut dire, les philosophies occidentales, quand nous, on s'intéresse beaucoup là, aux Grecs, et les textes d'Orient qui sont comme les textes sacrés d'Orient, de l'Inde, les Védas, les textes aussi chinois là, comme Lao Tzu, puis les textes sur le taoïsme. Il fait une distinction. Les textes philosophiques, on parle de philosophie occidentale, tandis que les textes orientaux, c'est plutôt des sagesses orientales. Et fait que c'est un beau petit livre, ça, que je vous recommande. Lui, il est disponible. C'est aux éditions Libère. Ça a sorti, a été publié en 2017. Alors, je vais vous lire un extrait là, de ce livre-là. Ça s'appelle « Le bonheur, sur le bonheur ». Dans la philosophie grecque, le but de la vie humaine est le bonheur. Aristote, qui s'adresse, faut-il le dire, aux gens bien éduqués, nobles et citoyens, libres athéniens, qui ont une vie active et très claire sur ce point. Au sommet, il y a la contemplation intellectuelle. Pour l'homme, la vie spéculative, c'est l'excellence dans le bon exercice de son essence ou de sa nature, c'est-à-dire du pouvoir de sa raison. En philosophe réaliste, Aristote conçoit le bonheur humain ici-bas comme possible et même naturellement désirable. Cependant, on ne peut l'atteindre que par la pratique des vertus morales et intellectuelles, lesquelles exigent des conditions comportementales et sociales de base. L'amitié, la civilité, un affranchissement du travail servile et un relâchement des passions. Le bonheur, c'est plus compliqué qu'on pense, et tous les philosophes importants qui ont réfléchi sur le bonheur le démontrent à leur manière. Prudence, discipline, effort désintéressé, assiduité de la pratique des vertus, exercice spirituel, vigilance, scepticisme, tempérance, introspection, autarcie, connaissance, toute conduite guidée par la raison. Bref, un travail ardu. Spinoza termine son éthique ainsi. Et cela, certes, doit être ardu, qui est trouvé si rarement. Comment serait-il possible, si le salut était sous la main et si l'on pouvait y parvenir sans grand peine, qu'il fût négligé par presque tous? Mais tout ce qui est beau est difficile, autant que rare. Le bonheur, celui de ceux et celles qui y ont réfléchi, ne serait donc accessible qu'à une petite minorité. Le sommet de la pyramide de Maslow, l'accomplissement de soi, difficile autant que rare, ne serait pas accessible à tout le monde, quoi qu'on en dise. Ce qu'il y a de particulier quand il est question de bonheur chez nos philosophes, c'est la prédominance de la raison, autant sur le plan de l'éthique que sur le plan de la politique. En effet, à partir du 18e siècle, avec la montée de l'opinion publique, on assiste à la diffusion d'une idée neuve en Europe, à savoir le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Neuve et insistante, cette idée du bonheur commun implique une véritable révolution des mœurs qui générera des révolutions politiques américaines et françaises. Ce bonheur individuel et collectif, ce bonheur public, est accompagné de trois idées de base explicitées par les philosophes des Lumières. La première, c'est l'idée d'une émancipation du peuple vis-à-vis des diverses tutelles du passé, dont l'Église et la monarchie. Deux, hiérarchie sacrée, mais dépassée, car l'homme capable de raison, de science, d'art et de progrès est désormais un sujet de droit et il revendique une égalité en dignité, une autonomie politique en tant que citoyen d'un peuple. La puissance législative appartient au peuple et ne peut appartenir qu'à lui, Jean-Jacques Rousseau. Le peuple n'a plus à se fier à l'arbitraire d'un monarque ou d'un empereur, si éclairé soit-il. Heureux comme un roi doit désormais se traduire par heureux comme un citoyen libre. Alors, c'est un extrait, petit extrait de philosophie et philosophie occidentale et sagesse orientale de Jacques Sénécal. Alors, on prend une autre petite pause musicale, puis on va conclure l'émission après ça.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see.
Let it be, let it be, let it be, let it be. cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be.
Let it be.
Let it be. Let it be. Yeah, let it be. Well, there will be an answer. Let it be.
Let it be.
Let it be. Let it be.
Alors, c'était Let It Be, c'est une chanson d'occasion. Je sais que Jacques était très nationaliste, là. Il n'était pas trop favorable à l'utilisation de l'anglais dans les émissions, mais je sais que Jacques a beaucoup écouté les Beatles, puis c'était... ça caractérise vraiment l'époque de Jacques Sénécal. D'ailleurs, comme je vous disais tantôt, Paul McCartney puis Jacques Sénécal ont presque le même âge. Alors, pour terminer l'émission, je vous lis un extrait d'un texte qui a été publié dans Le Devoir le 21 mai 2022. Et c'est sur l'épicurisme. Je pense bien que, en tout cas, quand il m'en parlait, j'ai comme l'impression que c'était son philosophe préféré, Épicure. Puis c'est le philosophe, il me disait, Jacques, que Épicure, c'est le philosophe de la simplicité volontaire. Alors, c'est comme très connecté à notre émission. Alors, le titre de son texte, c'est « L'épicurisme pour éviter la catastrophe écologique ». C'est un texte d'occasion parce que c'est... lié à la COP, ce texte-là qui avait été publié, je pense, en lien avec la COP. Alors, le sous-titre, c'est « Face au changement climatique, Épicure nous inviterait à conquérir cette liberté que seule procure la sobriété heureuse. » Mais que devrait-on entendre par mode de vie? Comment transformer nos modes de vie? Le philosophe grec Épicure, -342 à -270, peut nous servir de guide et d'inspirateur. Il peut nous aider à trouver non seulement les mots justes pour notre présent, mais surtout à nous dévoiler les principes de nos prochaines manières de vivre notre quotidien. L'épicurisme est une vieille sagesse qui ne se démode pas. Et si on l'enrichit de nos nouveaux savoirs sur l'hygiène, la santé et les communications notamment, elle devient une philosophie moderne, porteuse d'un mode de vie simple, non plus que volontairement choisi, mais raisonné, naturel, libertaire et libératrice. Un véritable néo-épicurisme est à faire naître, un nouvel hédonisme qui ne reposerait plus sur les plaisirs de la consommation effrénée et du consumérisme, ni sur la multiplication des besoins créés par la propagande publicitaire, mais sur une arithmétique simple des besoins. En ce sec de déséquilibre et de prétendue pénurie et rareté, un nouvel esprit, une nouvelle conduite s'impose. Une question doit d'abord être posée. L'homme serait-il vraiment un animal éprouvant des besoins sans limite? Vivons-nous l'obligation de produire toujours plus, nos ressources étant insuffisantes? Plusieurs anthropologues, dont Claude Lévi-Strauss, Marshall Salins et Leslie White, ont démontré que les sociétés à économie de subsistance parviennent à se procurer le minimum nécessaire et n'éprouvent pas de besoins infinis. Les membres adultes de ces sociétés ne manifestent guère le souci d'accumuler ni de stocker, même s'ils savent le faire. Se contenter de ce qui convient à la santé et à l'équilibre social leur convient. Le mode de vie de ces sociétés prouve clairement la fausseté du principe de rareté. ce n'est pas parce que nos ressources sont limitées qu'elles sont rares. Il n'y a en fait de rareté que dans la mesure où nos besoins excèdent les moyens que nous avons de les satisfaire. Ces attitudes humaines, très originellement humaines, qui consistent à désirer peu et à limiter les besoins, ou plus simplement, à ne combler que les besoins naturels et nécessaires, se retrouvent chez les sages des sociétés les plus civilisées. Épicure en est un des grands. Les quatre maîtres d'Épicure. Revoyons les principes de base de ce philosophe qui a fait école. Tout repose sur ces quatre fameux remèdes qui nous indiquent la voie à suivre, justement la voie proposée par le GIEC, sans qu'il y ait eu à utiliser explicitement les mêmes concepts, mais tout en les sous-entendant. Les dieux ne sont pas à craindre, qu'ils soient de la mythologie, du ciel, de l'Olympe, de Hollywood, de Wall Street, ils ne s'occupent pas de nous. La mort n'est pas à craindre. Tant que nous vivons le présent intensément, avec pleine conscience, tant que nous sommes là, la mort n'est pas là. Lorsque la mort est là, nous ne sommes plus là. Il n'y a que ceux qui se soucient du futur, les ambitieux, les assoiffés de richesse, de pouvoir, de gloire et d'immortalité, qui craignent l'impermanence et la perte. Et dernièrement, on peut supprimer la douleur. C'est encore plus vrai aujourd'hui qu'au temps d'Épicure, qui souffrait personnellement de coliques néphrétiques et qui pourtant affirmait que nous souffrons plus de l'idée du mal que du mal lui-même. Enfin, on peut atteindre le bonheur. La régulation intelligente des besoins et des désirs humains amène dès ici-bas une vie bien heureuse. Cette normalisation, les authentiques épicuriens l'appellent l'arithmétique des besoins. Alors voilà, c'est terminé pour notre émission d'aujourd'hui. C'est Jacques Sénécal. On va revenir. Je voulais faire un survol parce que, comme je vous disais, Jacques nous a quittés dernièrement. Alors, bonne semaine et à la semaine prochaine.
Vous écoutez CKIA 4.
Ben. Et toi, tu cherches du rock de qualité et pas cher? Dirige-toi tout de suite vers l'entrepôt du rock avec des morceaux de qualité comme... Cette offre est d'une durée...